11h midi, Studio B, Studio B.
Qu'est-ce que tu vas faire?
Bah, c'est moi ça.
Ah, vous connaissez pas?
Qu'est-ce que tu fous là?
Bah, j'en sais rien.
C'est pour l'annonce.
Ouais, vous cherchez les sparring,
plus que du chômage, plus que du RSA.
Bon, fou, j'en tomberai pas à l'usine.
Je me bouge et je trouve un taf.
Mais t'es sérieux là, devant maman?
Je suis pas un ennemi de la liberté.
Dis-moi, j'ai le droit de le faire, toi aussi t'as le droit de le faire.
Il faut que tu t'habilles correctement.
On n'est pas d'accord.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.
Avec un B comme boulevard de la Croisette. Bonjour, bienvenue dans Studio B. Moi, c'est Christophe. Et avec Camille, jusqu'à midi, on est là pour vous parler de cinéma. Camille, ça va bien?
Ça va, et avec un B comme bonne fête maman aussi.
Oh, bah ça, bah c'est
oui,
mignon.
Oui, c'est la fête de maman. Alors, bonne fête à ma maman. Et j'espère que toi, tu l'as fêtée à ta maman, Christophe.
Et ben bah oui, bonne fête maman.
Tu l'appelleras quand même tout à l'heure.
Oui, bah, je vais l'appeler et je vais lui dire qu'elle écoute pour la fin de l'émission.
Voilà.
Parce que là, du coup, peut-être qu'elle a raté.
Ou qu'elle écoute le replay.
C'est pas mal,
elle
ça
peut
aussi.
Faire ça.
En podcast. Oui, il faut qu'elle écoute aujourd'hui, du coup.
Bah oui, c'est parce que sinon, ça marche plus.
Bon, alors, bonne fête, maman. Et bienvenue dans Studio B avec un programme chargé ce dimanche. Mais on va commencer, comme d'habitude, avec ma sélection des sorties ciné de la semaine prochaine. Alors, c'est bien simple, il y a tellement peu de films qui sortent en ce moment que je suis presque obligé de tous les prendre. Donc, la sélection est vraiment vite faite pour le coup. Il y aura Elton John, des jumelles, des gros monstres et un camping à Venise. Et puis, Camille, toi, tu nous diras ce qu'il faut regarder ce soir à la télévision.
Eh ben, c'est d'actualité. On va regarder Joyeuse Fête des Mères sur Sister à 21h. Une heure.
Ah oui, d'accord. Alors,
voilà, s'il y a bien un jour pour voir ce film, c'est aujourd'hui.
J'espère que tu l'as dit à ta maman qu'elle écoute.
Bah bien sûr, mais elle écoute tous les dimanches ma maman.
Ah.
Enfin presque. Enfin elle me ment. Elle dit que oui, mais je crois qu'elle me ment.
Ah ben là, ce sera une bonne occasion
de vérifier.
À 11h30, ce sera le point sur l'actu avec le box-office, avec Pikachu qui dépasse les Avengers cette semaine en France. Et tout ce que tu as retenu de l'actualité de cette semaine, Camille.
Oui, alors on sait enfin quelle est l'ultime scène de Luke Perry, l'acteur de Beverly Hills qui nous a quitté en mars, vu qu'il jouait dans Once Upon a Time in Hollywood, le film de Tarantino qui a été montré à Cannes. Donc je vais vous en parler de cette scène-là. On va parler du nouveau film de Christopher Nolan et de Game of Thrones, bien sûr, vu que ça y est, le dernier épisode a été montré aux fans.
Oui, ça y est.
C'est terminé.
C'est bon, c'est fini.
C'est un drame pour beaucoup d'entre eux, donc on parlera de ça.
Non, mais ça, il fallait s'y attendre. Ça, j'en étais sûr. Allez, cette semaine, on va vivre Cannes par procuration, confortablement installé dans notre studio. Nous aurons par téléphone Hamid Sidi Boumediene. Il est un réalisateur algérien dont le premier long métrage, Abou Leïla, était sélectionné dans une des sélections parallèles du Festival de Cannes, la sélection La Semaine de la Critique. Alors, il repart sans aucun prix, mais avec une bonne expérience et de bonnes critiques dont il nous parlera tout à l'heure aux alentours de 11h15. Et puis, dans la dernière partie de l'émission, nous resterons à Cannes avec Ouda Ibrahim. Elle est journaliste, critique de cinéma et surtout membre du jury des Annual Critic Awards, une cérémonie organisée depuis 3 ans par le Arab Cinema Center durant le Festival de Cannes pour remettre des prix aux films arabes ayant marqué l'année. Voilà, le Festival de Cannes autrement, c'est au programme de ce Studio B. Vous écoutez Beurre FM, nous sommes le dimanche 26 mai, c'est la fête des mères. Bienvenue dans le 98e numéro de Studio B. Wow,
98e, oh, c'est
bientôt la centième.
Studio B, les sorties ciné de la semaine.
Et Rocketman, bien sûr, ce mercredi.
Exactement, on commence par Rocketman, l'événement de la semaine, déjà présenté hors compétition à Cannes. C'est le biopic d'Elton John, produit par lui-même. L'histoire de Reginald Dwight, un petit enfant d'une petite ville d'Angleterre, un peu timide, un peu mal dans sa peau, mais excellent pianiste. Et comment il s'est transformé en la star internationale excentrique que tout le monde connaît aujourd'hui, Elton John. Les critiques sont assez partagées, certains adorent, d'autres moins. On verra si ce film aura autant de succès que le film sur Queen, Bohemian Rhapsody. Si c'est le cas, on peut déjà vous prédire la préparation d'une bonne demi-dizaine ou demi-douzaine, une dizaine, une vingtaine de films sur de biopics de chanteurs dans les prochaines années, c'est garanti. Alors, oui. Tu as vu Rocketman,
oui,
en avant-première.
Oui, et moi j'ai eu la chance d'être invitée en avant-première au Grand Rex.
Même
à
pas
Paris.
Tu m'as invité, non.
Non. J'ai invité quelqu'un d'autre.
Oui, bah ouais.
Enfin, bref.
Je prends mal.
Et donc, bah, ce film, oui, donc alors, il faut aimer Elton John, hein, bien sûr, parce que bon, bah, il y a de la musique d'Elton John pendant tout le film. Donc, si on n'aime pas Elton John, c'est un petit peu compliqué. Oui. C'est pas un film extrêmement original, c'est quand même assez convenu, parce qu'on sent qu'Elton John a validé tout ce qui était.
C'est lui qui a produit, hein. Voilà. Il a
donc,
fait un film
forcément,
sur lui.
Forcément, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Mais c'est une vraie performance d'acteur. L'acteur qui incarne donc Elton John, Taron Egerton, est vraiment formidable. C'est lui qui chante. Et vraiment, si vous allez voir ce film, c'est pour sa performance parce que c'est vraiment très impressionnant. Et on passe un bon moment, hein, globalement. Donc, bon. Allez-y.
Ok.
J'ai envie
on va
de
voir
dire.
Rocketman, c'est en tout cas le conseil de Camille. Autre film qui sort ce mercredi, Venise n'est pas en Italie, une comédie avec Benoît Poulvorde et Valérie Bonneton. Bonne annonce.
Je
peux pas vivre dans une caravane toute ma vie.
Un jour, tu regretteras notre vie de bohème.
Oh, pas non. Si ça te tente, je fais un concert classique avec un orchestre de jeunes au début des vacances.
Carrément, c'est où?
En Italie, à Venise.
De l'argent, moi, je trouve pas sous le sabot d'un cheval.
On va y aller tous ensemble à Venise, avec notre caravane.
Bah, ça te fait pas plaisir?
Tous les chemins mènent à Rome. Et Venise n'est pas bien loin de Rome. Hein. Je me suis arrangé pour faire un petit peu de covoiturage.
Hein? On devait pas être que quatre dans la voiture?
Mais vous inquiétez pas, il y en a un qui s'arrête à Lyon.
Mais moi, je serais déjà descendu. Macron, c'est avant Lyon.
Ça dépend. Ça dépend par quel chemin on passe. Allez, on y va!
Ah, yeah!
Allez, tous ensemble! Allez!
Bienvenue chez les dingues.
Honte de nous? On te convient pas comme parents?
Oui, j'ai honte. Et j'ai honte qu'on soit pas une famille normale.
Mais ça n'existe pas, les gens normaux.
Aimé, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer.
J'ai inventé une nage.
Tu sais comment je l'ai baptisée?
L'huître.
Mais ça nage pas, une huître.
Et le papillon? Le papillon, ça nage?
Ouais, c'est ça, je vais m'en coucher.
Alors on reconnaît bien le style Poulevard dans cette comédie qui est, honnêtement, je vois Poulevard dans un film et ça me donne envie d'aller voir le film. C'est, voilà, c'est Poulevard quoi. C'est une comédie qui vit sa troisième vie. C'était un roman au départ, adapté au théâtre ensuite, puis maintenant au cinéma, toujours par l'auteur du bouquin original qui s'appelle Yvan Calberac. Il a voulu faire un film qui sente les vacances d'été, une sorte de road trip sur l'autoroute avec une arrivée dans un camping, des passages par des aires d'autoroute, etc. Et avec les images de Little Miss Sunshine en guise de référence visuelle. Voilà, des images un peu jaunies. Enfin, jaune joli quoi. Voilà, pour ce film Venise n'est pas en Italie qui sort ce mercredi.
On pourra aussi aller voir Ni une ni deux ce mercredi.
Oui, Julie est une grande comédienne française, mais du genre un peu très star quoi, très hautaine, la grande star de cinéma quoi. Elle décide de faire de la chirurgie esthétique et puis sortie du bloc.
C'est horrible, je suis complètement défigurée, on dirait un poisson mort.
Voilà, totalement défigurée. Et elle fait appel à un sosie, du coup, pour la remplacer sur un tournage qui doit démarrer.
Alors, si on vous relook un peu, je suis sûr que vous pourriez me remplacer. Incognito, bien sûr.
Sauf que ce sosie est en fait sa sœur jumelle. Elle ne le sait pas au début. Elle va découvrir que cette fille qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, bah forcément, ça explique tout. C'est sa sœur jumelle et que c'est une sœur jumelle qui est bien plus agréable qu'elle.
J'ai pas vraiment réussi à maintenir la distance dont vous m'aviez parlé. Ne dites pas que vous faites la bise à tout le monde.
Alors, vous aurez remarqué, avec les voix, c'est Mathilde Seigné qui endosse le double rôle donc de l'actrice et de la jumelle de l'actrice, qui est forcément un petit peu compliqué à tourner et à jouer, puisqu'elle apparaît parfois avec elle-même à l'écran, ça demande du montage derrière. Mais c'est aussi un rôle d'acteur assez compliqué à faire. Elle tournait le matin ses scènes en tant que jumelle et l'après-midi en tant qu'actrice star. Et au-delà de la comédie, la réalisatrice a voulu faire un film sur les enfants séparés lorsqu'ils sont enfants, parce que les parents se séparent, etc., voilà, et qu'ils se retrouvent dans les familles d'accueil et qui ensuite se retrouvent une fois adulte. Et je voulais faire aussi un film sur les actrices et leur délicat passage du cap de la cinquantaine.
Godzilla 2.
Autre style complètement pour ce film. 17 énormes monstres se réveillent et veulent se battre pour dominer la planète. Ils risquent de nous anéantir jusqu'à ce qu'on comprenne une chose.
Ils sont tous soumis aux ordres d'un mâle alpha. Si on arrête ce Ghidorah, on les arrête tous.
Y a-t-il une autre créature qui aurait une chance contre lui?
Oh non, Godzilla.
Godzilla qui va donc nous filer un coup de main. Si on les compte tous, même les moins importants, c'est le 33e film sur le monstre Godzilla. C'est depuis une cinquantaine d'années, il y en a plein qui sont sortis. Ce Godzilla 2 est la suite du reboot qui était sorti en 2014. Et la suite de cet opus est déjà prévue l'année prochaine. Ce sera Godzilla vs Kong. Et ce sera aussi la suite de Kong Skull Island qui était sorti il y a 2 ans. Voilà, c'est plusieurs suites de films qui s'imbriquent en un seul. Godzilla 2, ça sort aussi ce mercredi.
À voir aussi cette semaine.
Le Fils, un documentaire sur les Spetsnaz, les unités d'élite de l'armée russe, et puis Tends-moi la main sur les relations compliquées entre un père qui sort de prison et son fils trentenaire. Et alors, il n'y a pas d'autres films qui sortent.
Voilà,
il y a des mercredis où il y a 30 films qui sortent. Là, il y en a très peu. C'est généralement comme ça autour du Festival de Cannes. Il y a 3 mercredis où il y a peu de films qui sortent. Voilà, à partir du mercredi suivant, on commencera à avoir à nouveau plein de nouvelles sorties. Du coup, si vous ne trouvez pas dans votre bonheur, dans ce que je vous propose, il reste la télé.
Bah voilà, bien sûr. Alors, donc, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir? Et ce soir, regardez Joyeuse Fête des Mère sur Sister à 21h. Ça me semble assez logique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est l'actualité. Si vous n'avez pas écouté le début de cette émission, si vous n'avez pas internet et si vous avez jeté tous les calendriers chez vous, sachez qu'aujourd'hui, c'est la fête des mères et vous avez encore le temps d'aller acheter un petit bouquet de roses ou d'en arracher quelques-unes chez votre voisin
pour aller les
offrir à votre maman. Bah oui, voilà, si on n'a pas le budget pour les roses, on en pique. Ouais, dans les jardins publics, enfin, où vous pouvez, quoi. Et vous lui dites surtout que vous l'aimez. Et vous finissez cette journée en regardant avec elle le film donc, de Gary Marshall, Joyeuse Fête des Mères. Bon, vous le regardez pour la beauté du geste, hein, parce que, autant être honnête, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Ne vous attendez pas à un grand film, parce que vous allez être très déçus. Gary Marshall, on l'aime. Hein. Pourquoi on l'aime ? Parce qu'il nous a offert le cultissime Pretty Woman. Mais depuis, bon, on ne peut pas dire qu'il ait fait des choses très qualitatives. C'est simple, hein. Depuis 2010, il a décidé de réaliser un film autour de toutes les fêtes notées dans le calendrier. Donc en 2010, il réalisait Valentine's Day. En 2011, il s'est dit, tiens, je vais faire Happy New Year. Et donc en 2016, Joyeuses Fêtes des Mères. Donc peut-être, voilà, en 2020, on va avoir une autre fête. Hein, je ne sais pas, Pâques, je ne sais pas.
Bon, un film sur l'Aïd, enfin.
Voilà, exactement. Bon, on ne sait pas, on va voir, suspense. Mais bon, à chaque fois, ce n'est pas du grand cinéma. Et pourtant, à chaque fois, j'y retourne. Il arrive toujours à m'avoir, ce Gary Marshall, sacré Gary. Déjà, il m'appâte avec quoi ? Bah, avec Julia Roberts, oui. Avec qui plutôt, pardon, parce que Julia, quand même, oui. Qui joue dans la plupart de ses films. Et là, qu'est-ce qu'il fait dans Joyeuses Fêtes des Mères ? Bah, il l'a fait carrément jouer avec Jennifer Aniston, à qui, bien sûr, je ne peux pas résister depuis Friends. Voilà. Et à savoir que les deux actrices ont une scène en commun dans le film et ne se sont pourtant jamais rencontrées. Alors comment elles ont fait ? Leur emploi du temps les empêchait de jouer en même temps, donc la scène a été tournée en champ contre champ et avec des doublures. Et donc après, ça a fait au montage. Bon, on résume. Ce soir, qu'est-ce qu'on fait ? Ce soir, on est devant Sister à 21h pour Joyeuses Fêtes des Mères. Un petit film sympa avec des actrices sympas. Rien de plus, rien de moins.
Voilà, puis ce sera peut-être mieux que les soirées électorales qui seront proposées.
Oui, alors après, vous pouvez faire ça aussi, mais bon, c'est moins fun.
C'est autre chose, voilà, c'est deux salles, deux ambiances. Restez avec nous au Studio B, parle du Festival de Cannes aujourd'hui qui s'est terminé hier. On vous a mis tout le palmarès sur la page Facebook de Studio B. On va en parler de ce Festival de Cannes quand même avec Amine Sidi Boumediene, l'un des deux réalisateurs algériens qui ont eu des films sélectionnés au Festival de Cannes. Son film, c'est Abou Leïla, qui a été sélectionné à la Semaine de la Critique. Et on aura aussi un peu plus tard dans l'émission Ouda Ibrahim, qui était jury au annual Critic Award, une cérémonie organisée par le Arab Cinema Center depuis 3 ans durant le Festival de Cannes. Voilà le programme jusqu'à midi, restez avec nous tout de suite.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Camille.
Merci d'être avec nous, vous écoutez Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Cette semaine, on ne pouvait pas parler de ciné sans parler du Festival de Cannes. Festival de Cannes où Amine Sidi Boumediene, un réalisateur algérien, avait son premier long métrage sélectionné. Le film, c'est Abou Leïla. Il était sélectionné à la Semaine de la Critique. Alors, il est reparti sans prix. La Semaine de la Critique, le palmarès a été publié ce mercredi. Il est reparti sans prix, mais avec une bonne expérience. Et puis, les critiques qui ont été faites sur son film ont été plutôt positives. On l'a eu par téléphone en début de semaine, justement, pour nous parler de son film. Amine Sidi Boumediene, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur Beurre FM. Vous êtes donc le réalisateur de Abou Leïla. C'est votre premier long métrage qui est présenté à la Semaine de la Critique, l'une des sections parallèles du Festival de Cannes. Première projection, c'était lundi, si je ne me trompe pas. Nous, on n'a pas pu voir le film, mais déjà, ça s'est bien passé, cette première projection ?
Ah bah, très, très bien. Beaucoup d'émotions, forcément. Voilà, avec toute l'équipe, ma famille. Et ça s'est très très bien passé a priori, on a de bons retours pour un film assez exigeant à la base, donc franchement on est ravis.
Bon, si vous deviez résumer le film en quelques mots, si vous deviez faire le pitch du film, comment vous le feriez ?
Bah, je dirais un peu banalement, parce que le pitch du film n'est pas très intéressant à la base, hein. C'est plus son développement hein, qui m'intéresse dans le film. Mais disons grosso modo que c'est deux amis d'enfance qui partent dans le désert à la recherche d'un hypothétique terroriste du nom d'Abou Leïla. Et on s'est rendu compte que l'un d'eux est très fragile émotionnellement et que l'autre prend soin de lui. Et à partir de là, il y a un développement qui fait qu'on s'enfonce un peu dans la psyché des personnages et surtout de celui qui est fragile psychologiquement. Et voilà. Voilà, je ne vais pas spoiler si je raconte trop.
Ah ben bah non, il ne faut pas, spoiler. Il ne faut pas, parce voilà. Qu'on veut le voir une fois qu'il sera sorti. Ouais. Il sortira quand en France d'ailleurs ? Il y a une date qui est déjà prévue ?
Aucune idée. Non, pour l'instant, non. Pas du tout. On n'a pas encore de distributeur. Il y a pas mal de possibilités, de propositions, mais pour l'instant, non. Pas de date de prévue. Mais ça va venir.
Bon, bah
Inch'Allah.
On a hâte qu'il y ait une date de prévue, on espère en tout cas, c'est vrai. Donc vous l'avez dit, c'est un film qui parle du terrorisme en Algérie dans les années 90. En tout cas, là, ça se passe plus ou moins dans cette période-là, parce qu'il n'y a pas trop d'indices sur le temps vraiment, mais c'est plus ou moins situé dans... voilà, ça parle du terrorisme. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un film ancré dans cette époque ?
Bah, je réponds toujours à la même chose, à savoir que ma génération était très, très, très marquée par cette époque, très traumatisée même. On était très jeunes et ça nous a beaucoup impacté. Moi, je l'ai vécu entre mes 10 et 20 ans. Donc, c'est quand même une période où on se forme, où on se construit, où on a besoin de, d'avoir beaucoup d'espace pour réfléchir, pour appréhender la vie, etc. Et du coup, quand vous vivez cette période-là dans un contexte aussi violent, aussi fermé, où tous les horizons sont bouchés parce qu'on est concentré sur ça, H24, bah, c'est très compliqué, hein. Et je pense que beaucoup d'entre nous, pendant cette période, ils ont commencé un peu à construire leur monde artistique imaginaire parce qu'il fallait se réfugier quelque part dans un univers parallèle, quasiment. Donc voilà, d'où l'importance aujourd'hui. Après plusieurs années, parce que je pense qu'il fallait laisser pas mal d'années quand même, de raconter cette période, mais ensuite on la raconte, je pense que chacun la racontera différemment, et selon les générations, les films prendront telle ou telle forme. Moi par exemple, personnellement, je ne vais pas parler au nom des autres, hein, mais personnellement, mon honnêteté intellectuelle voudrait que je n'essaie pas trop d'expliquer politiquement et socialement ce qui s'est passé, parce que j'étais trop jeune, même si je suis au courant de tout ça, mais j'ai pas eu le vrai vécu de cette période-là, à ce niveau-là, hein, je veux dire. Mais j'ai eu le vécu plus émotionnel, plus psychologique, plus traumatisant, on va dire. Donc, c'est ce que j'essaie de resituer dans le film, tout en rendant hommage à ceux qui ont lutté bien malgré eux. Contre la violence.
Alors, il y a deux films algériens sélectionnés à Cannes cette année, donc il y a le vôtre, hein, Abou Leïla, et il y a aussi Papicha de Mounia Medour, oui, qui se passe aussi dans ce contexte des années 90. Donc bah, voilà, c'est un sujet qui inspire beaucoup. Vous avez eu peut-être eu des contacts avec Mounia Medour ?
Écoutez, on s'est parlé, mais le problème c'est que je suis arrivé trop tard à Cannes, donc je n'ai pas vu son film.
Vous n'avez pas vu son film ?
Je sais juste, d'après ce que j'ai compris, que bah, voilà, par exemple, c'est vraiment deux approches complètement différentes, et tant mieux. Mais je n'ai pas vu son film, donc je ne pourrais pas vous en parler. C'est juste que moi, je suis très content que d'autres réalisateurs prennent ce sujet en main, mais pas du tout surpris, hein. C'est-à-dire, pas mal de gens sont un peu surpris.
Oui, c'est un sujet qui inspire beaucoup la jeune génération de cinéastes algériens.
Mais entendre des gens dire encore la décennie noire, c'est absurde parce que c'est pas vrai, hein. Pour moi, on n'en a pas assez parlé pour l'instant.
C'est une remarque qu'on a pu vous faire, ça ?
Oui, parce que beaucoup de gens préfèrent ne pas en parler, alors que pour moi, c'est ça le problème, c'est qu'à force de ne pas parler des choses, on ne les règle pas, quoi. On n'est pas en paix avec soi-même. Donc, moi, en tout cas, j'ai aucune envie d'utiliser ce sujet comme un truc de racolage ou quoi que ce soit. C'est vraiment je m'appuie sur ce sujet pour parler de choses bien plus universelles, bien plus philosophiques, plus psychologiques aussi. Et c'est pour moi, c'est un point de départ, hein, plus qu'autre chose. Et je ne prétends absolument pas, avec un film de deux heures, restituer toute la réalité de la chose. C'est impossible. C'est impossible. Oui, c'est forcément partisan au bout d'un moment. C'est-à-dire, on est obligé de prendre un point de vue très partisan si on fait ça. Donc, la chronique qui englobe tous les événements ne m'intéresse pas, et c'est pas du tout ce que j'ai fait personnellement. Pour le film Papicha, je ne sais pas, vu que je ne l'ai pas vu, mais même si elle a pris une autre direction, c'est tant mieux aussi, il n'y a aucun problème. Hein,
oui, chacun en parle comme mieux.
Chacun doit... Ah oui, absolument, je pense que vraiment, c'est la multiplicité des œuvres qui va faire qu'on aura un point de vue global sur la situation. On aura plutôt une myriade de points de vue qui donnent une idée globale de ce qui s'est passé. Donc il en faut beaucoup, je pense, et beaucoup très différents, dans des styles différents. C'est important.
Alors, Abou Leïla, c'est votre premier long métrage, hein, directement sélectionné à Cannes. Il y a de nombreux articles qui vantent un certain renouveau du cinéma du Maghreb, notamment cette année à Cannes, et du cinéma algérien en particulier. Est-ce que ça ne vous met pas trop la pression, ce côté, on doit porter sur ses épaules le renouveau du cinéma, quoi ?
Alors, absolument pas du tout. Moi, ces formules-là, je m'en éloigne énormément. Je laisse le soin aux journalistes ou autres de les utiliser si ça peut faire plaisir ou si ça peut faire vendre actuellement, parce que politiquement, voilà, on est un peu sur le devant de la scène. Moi, je ne joue absolument pas ce rôle-là. Mon film, j'étais en montage quand les événements ont commencé. Je n'ai absolument pas sauté sur cette occasion pour le mettre en avant ou quoi que ce soit. Donc ça, vraiment, moi, je me désolidarise de ce genre de phrases. Mais bien évidemment, oui, il y a un renouveau dans le sens où il y a des gens qui font des films, tout simplement, et ces gens-là ont du talent, et il faut les laisser s'exprimer. Et il y en a beaucoup qui ont du talent et qui ne s'expriment toujours pas, parce qu'on ne les aide pas. Moi, j'ai énormément bataillé pour faire ce film. J'ai 37 ans, je fais mon premier film, j'aurais pu le faire il y a 5 ans, et ça prend un temps fou, et encore, hein, c'est sur le fil du rasoir, j'aurais pu ne pas le tourner. Donc, on lutte, et si ce cinéma algérien-là existe, c'est parce que vraiment il y a des volontés individuelles qui ne lâchent rien. Parce qu'on fait tout pour nous faire abandonner, on fait tout pour que seuls les films d'État existent en Algérie. Et ces films-là sont complètement dépassés, anachroniques, manichéens. Nous, en tant que jeune génération, ça nous intéresse pas du tout de faire des films de ce genre-là. Donc, si c'est des formules toutes faites pour, comme vous dites, foutre la pression à des artistes et les forcer à s'inscrire dans un truc politique, franchement, ça m'intéresse pas. Moi, je suis un artiste, je suis pas un politicien, je suis pas un sociologue. Mais si c'est juste une manière de dire qu'il y a des nouveaux talents qui émergent, oui, absolument, bien sûr. Et il faut l'encourager, ce mouvement.
Alors, vous l'avez dit, pas de sortie prévue pour l'instant, hein, mais ça va arriver. En attendant, on peut voir vos précédents courts-métrages qui sont disposés sur votre chaîne YouTube. Alors, moi, j'ai vu notamment Demain Alger, qui était tourné en 2011, et où l'histoire se passe la veille des manifestations de 1988 à Alger. Est-ce qu'on pourrait replacer ce court-métrage aujourd'hui, en février 2019? Est-ce que ces manifestations, finalement, les nouvelles manifestations, pourraient vous inspirer un film?
Ah, mais complètement. Et le propos du film à cette époque-là, c'était totalement ça, figurez-vous. C'est-à-dire que moi, quand je mets la date à la... Bon, là, on spoil le court-métrage, mais on n'a pas trop le choix quand on en parle, en fait. Mais quand je mets la date à la toute fin, ce n'est pas vraiment un twist hein, à la film américain. C'est une manière de dire, voilà, tout ce que vous venez de voir, ben, ça peut être aujourd'hui. Bon, c'était il y a 30 ans, mais ça peut être aujourd'hui sans aucun problème. Et quand je l'ai fait, c'était juste avant les printemps arabes, entre guillemets. Donc il y avait une espèce de résonance, mais ce n'est pas arrivé en Algérie, et ce qui est normal, hein, le contexte de l'époque, c'est le contexte de l'époque qui le voulait. Donc oui, complètement. Hein. Moi, franchement, en 2011, quand je faisais ce film, je me disais, il faut qu'on se révolte dans pas longtemps, quoi. C'est clair qu'à un moment donné, il va falloir, peut-être pas se soulever, mais se lever en tout cas, bon, comme un seul homme.
Ça pourrait être le sujet d'un prochain film.
Oui. Possible,
par exemple.
Possible. Possible, même si moi j'essaie toujours de m'éloigner de l'actualité, de prendre du recul, parce qu'encore une fois, voilà, c'est y a une grande différence entre relater un événement et en parler artistiquement parlant. Et je pense qu'il faut toujours aller un peu dans le fond des choses, donc avoir beaucoup de recul. Je pense qu'il faut laisser quelques temps passer avant de s'emparer d'un sujet. Sinon, on va le traiter d'une manière sensationnelle et on ne fait pas avancer le truc.
Merci.
Voilà, mais ce n'est que mon avis, hein, bien sûr. Ce n'est que ma démarche. Hein. Chacun a ses démarches.
Eh bien, figurez-vous que c'est pour ça qu'on vous a interviewé. C'est pour avoir votre avis à vous. Donc, ça tombe bien.
merci beaucoup,
Amine Sidi Boumediene. Vous étiez par téléphone depuis Cannes. Et voilà, on attend la sortie d'Abou Leïla sur les écrans français pour vous recevoir durant une heure dans Studio B. Merci beaucoup.
Merci à vous. Au revoir.
Studio B, l'actu ciné.
L'actu ciné qui commence par le box-office. Pas d'entrée sur le podium cette semaine, mais Pikachu se paye Thanos. Pokémon Détective Pikachu passe en effet premier du box-office France avec 319 nouvelles entrées pour sa deuxième semaine d'exploitation. Avengers Endgame passe donc second avec près de 300 000 billets vendus supplémentaires. Mais ça fait quand même déjà 4 semaines qu'il est à l'affiche, donc c'est normal que ça s'essouffle un petit peu. Et nous finirons ensemble, la suite des petits mouchoirs ferme le podium avec 285 000 nouveaux spectateurs. Les nouveautés de la semaine ne font donc pas de score énorme, comme les Canois Douleur et Gloire de Pedro Almodovar et The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, 4e et 5e, avec 171 et 162 000 entrées respectivement. La comédie Séduis-moi si tu peux finit 6e en frôlant les 100 000 entrées, et petit flop pour Cold Blood Legacy avec Jean Reno choisi par seulement 64 000 spectateurs. Aux États-Unis aussi, les Avengers cèdent la première place à John Wick Parabellum, 56 millions de dollars de recettes pour ce film d'action contre 30 millions de plus pour les Avengers sur cette 4e semaine à l'affiche. Et Pokémon Détective Pikachu est 3e là-bas avec 25 millions de dollars supplémentaires. L'actu, c'est pas que les chiffres, il y a aussi des news. Et c'est Camille, qu'est-ce que tu as retenu de l'actualité de cette semaine? On commence par cette info. On sait quelle est l'ultime scène de Luke Perry dans Once Upon a Time in Hollywood.
Et oui, l'inoubliable interprète hein, de Dylan McKay dans Beverly Hills nous a quitté le 4 mars dernier. Alors avant de partir, il avait joué dans Once Upon a Time in Hollywood, le film de Tarantino qui a fait trembler la croisette cette semaine, un rôle très secondaire, donc selon les critiques qui ont pu voir le film. Il incarne un acteur qui se déplace avec une canne, il n'a que très peu de répliques et ne reste à l'écran que 3 minutes environ. Hein. Donc on peut dire sans grand doute que ce n'est pas l'adieu que les fans attendaient. Vous pourrez voir cette scène le 14 août prochain, date de la sortie du film de Quentin Tarantino.
Une Française dans le prochain film de Christopher Nolan.
Oui, le prochain film du réalisateur d'Inception a un titre qui est Tenet. Alors, je ne sais pas quel est ce mot, mais apparemment, il s'agit d'un palindrome. Alors, un palindrome, c'est un mot qui peut se lire de la même façon dans un sens comme dans l'autre.
Donc, T-E-N-E-T,
ça fait toujours Tenet. Et ça signifie principe ou doctrine en français. Le film a aussi un casting, donc on pourra y voir l'actrice française Clémence Poésy, et elle y jouera aux côtés de Michael Caine et Robert Pattinson, le prochain Batman. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu cette news passer cette semaine, Pattinson est le prochain Batman. Et donc, le film de Christopher Nolan est attendu le 22 juillet 2020. On n'en sait pas plus pour l'instant.
Alors regardez ce talent, elle a réussi à vous glisser deux infos en une.
T'as vu ça?
Alors là.
L'arnaque.
Et les fans de Game of Thrones ont besoin d'aide.
Et oui, ça y est, nous sommes dimanche, mais la douleur est encore là. Lundi était diffusé le dernier épisode de l'ultime saison de Game of Thrones. Adieu Arya, adieu Jon Snow et adieu les dragons. Alors de nombreux fans ont du mal à digérer la nouvelle et c'est le site braque.com qui propose de vous aider pour vous mettre en relation avec des psychologues pour réussir à gérer ce manque. Alors attention, petit bémol, hein, le site est en anglais et il faut quand même débourser 40 livres par heure. Donc si vous n'êtes pas anglophone et si vous êtes pauvre, eh ben, il faut patienter. Et voilà, comme on dit, avec le temps va, tout s'en va.
Oui, bah oui. ils vont pas la retourner cette dernière saison.
Bah non.
Il y a des pétitions.
Oui, il y a des pétitions, mais ils ne vont pas faire ça. Et même, il y a des spin-offs qui avaient été annoncés. Et finalement, il n'y aura pas de spin-off sur Arya déjà. Donc ça, c'est sûr. On ne sait même pas s'il y aura des spin-offs sur d'autres personnages.
À voir.
Donc il faut dire adieu à Game of Thrones.
Trois infos en bref pour terminer.
Ah oui, et une nouvelle suite par contre, bonne nouvelle, alors je ne sais pas, et il y a une nouvelle suite de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui est en préparation 4 mois après la sortie du dernier volet.
D'accord.
Voilà, donc pour les fans de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est
sont
une
deux,
bonne
enfin,
nouvelle.
Non,
ils sont beaucoup. Oui. Et Peter Jackson, figurez-vous, a refusé de réaliser Aquaman. Le réalisateur a dit qu'il n'était pas très fan des super-héros. Voilà, ça c'est dit. Et mauvaise nouvelle, Daniel Craig s'est blessé à la cheville durant le tournage du dernier James Bond. Il a dû se faire opérer. Mais la production a dit qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir puisque ça ne modifierait pas le calendrier de production. Donc je ne sais pas comment ils vont faire vu qu'il faut quand même un petit peu de convalescence. Mais bon.
Oui, vous avez pris de l'avance.
Oui, c'est ça. Ils sont bien organisés. Voilà.
Le problème, c'est qu'ils sont obligés de l'attendre. Ils ne peuvent pas en plein milieu du film
changer
ça. De gars.
Oui, exactement. Donc bon, bah, écoutez... Ils sont plutôt positifs.
Bon allez, pour être complètement complet, pendant ces news, on aurait pu vous parler du Festival de Cannes, sauf que voilà, on va pas vous mentir, on a enregistré cette émission ce jeudi, et donc du coup, on n'a pas encore les résultats du Festival de Cannes. Si vous les voulez, on vous les met quand même sur la page Facebook de Studio B. Voilà, c'était pour ne pas être complètement décalé.
Et donc on ne sait pas, voilà.
Voilà, on ne sait pas, nous on est encore dans le suspense. Vous savez, oui, vous allez sur la page Facebook de Studio B maintenant. On va continuer quand même de parler du Festival de Cannes avec Ouda Ibrahim. C'est une journaliste et critique de cinéma qui est aussi membre du jury des annuels Critic Awards. L'annual Critic Awards, c'est une nouvelle cérémonie qui a été organisée depuis 3 ans par le Arab Cinema Center. Ça se passe pendant le Festival de Cannes et ça récompense les films arabes qui ont marqué l'année précédente. Elle sera avec nous par téléphone juste après la pause. Restez avec nous.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Camille.
Merci d'être avec nous, c'est Studio B que vous écoutez, le magazine ciné de Beurre FM jusqu'à midi. On continue de parler du Festival de Cannes avec Ouda Ibrahim. Elle est journaliste et critique cinéma et elle était surtout jury au Annual Critic Awards. C'est une cérémonie qui a lieu depuis 3 ans en même temps que le Festival de Cannes et qui est organisée par le Arab Cinema Center. C'est une association qui regroupe des critiques internationales et qui remettent chaque année des prix aux films arabes qui ont marqué l'année. On l'a eu par téléphone, l'interview a été enregistrée ce jeudi. Ouda Ibrahim, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur Beurre FM, vous êtes journaliste, critique de cinéma et membre du jury des Annual Critic Awards du Arab Cinema Center. Alors, c'est la 3e édition de ces Annual Critic Awards. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va commencer par le début. C'est donc organisé par le Arab Cinema Center. Qu'est-ce que c'est que ce Arab Cinema Center ?
C'est un centre qui existe au Caire et qui s'intéresse aux distributions de films arabes et dans les pays arabes et un peu à l'étranger également. Et il y a quelques années, nous critiques, parce qu'on est nombreux, on a évoqué ce sujet. Et je rappelle qu'à Cannes, depuis une vingtaine d'années, il y a quand même un prix symbolique pour le cinéma arabe qui était donné tous les ans par les critiques, mais qui était vraiment symbolique.
Il n'y avait pas d'organisation, en fait, c'est ça?
Oui, c'était nous, on se rassemblait et on donnait un seul prix au cinéma arabe présent à Cannes. Les prix maintenant sont différents et donc c'est donné par ce centre qui s'occupe donc du cinéma arabe, mais avec l'aide d'une cinquantaine de critiques maintenant, et pas seulement des critiques arabes, parce qu'il y a plusieurs critiques britanniques, français, etc., mais qui s'intéressent vraiment au cinéma arabe, qui connaissent ce cinéma et qui sont donc capables de, pas la juger, mais de donner des prix par rapport à ce cinéma. Voilà.
C'est vraiment un prix critique. Le prix des critiques.
C'est des prix des critiques, oui, effectivement.
Donc, troisième édition, on le disait, de ces Annual Critic Awards. Quelles sont les règles pour présenter un film ? Vous ne jugez pas pas les films de Cannes qui sont en compétition, même si le prix est remis, pas dans le cadre, on va dire, à côté du Festival de Cannes, pendant la période du Festival de Cannes en tout cas. Mais c'est de quoi est faite la sélection ?
La sélection est faite de meilleurs films arabes produits sur l'année. Il y a un prix également pour les films documentaires. Et on sait très bien qu'actuellement, malheureusement, il n'y a pas énormément de films arabes produits, surtout en fiction. Il y a pas mal en documentaire et qui arrivent à vraiment gagner des prix internationaux un peu partout. On l'a vu cette année à Berlin, on l'a vu ailleurs. Aujourd'hui, les films documentaires arabes ont vraiment une qualité très forte et qui sont très présents dans les festivals internationaux. Par contre, par rapport à l'histoire de ce cinéma arabe, par rapport à l'histoire du cinéma égyptien, parce que je rappelle que quand on parle, il y a une vingtaine d'années, quand on parlait du cinéma arabe, on parlait surtout du cinéma égyptien, et qu'aujourd'hui, cette production est variée. La Tunisie, aujourd'hui, produit pas mal, le Maroc aussi, le Liban un peu, et malheureusement, en Égypte, la production, surtout de films de fiction, a régressé ces dernières années, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de noms qui circulent, mais qui viennent d'ailleurs. On voit que le Maghreb a devancé le Mashrek par rapport à la production cinématographique.
Même si dans certains pays, ça recule, comment vous expliquez qu'en Égypte, par exemple, y ait moins de films qui sortent maintenant ?
C'est un peu difficile à expliquer. Il y a plusieurs raisons. En fait, il y a des raisons politiques, il y a des raisons de production, parce qu'on sait aujourd'hui, il y a deux grands producteurs en Égypte seulement, alors qu'avant, il y avait beaucoup de producteurs qui travaillaient dans cette industrie de cinéma. Aujourd'hui, c'est soit l'État, soit des petits producteurs indépendants qui parfois rament beaucoup en fait pour produire leurs films. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de réalisateurs sont passés aussi producteurs parce qu'ils ne trouvent pas de l'argent pour financer leurs films. Et on sait que l'État préfère un genre bien défini de films à qui ils accordent les aides pour la production. Donc, il y a plusieurs éléments aussi. Donc, il y a le climat politique qui n'aide pas en Égypte aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de restrictions par rapport à toute la production artistique, non pas seulement du cinéma, alors que dans d'autres pays qui profitent du climat de liberté qui existe maintenant dans un pays comme la Tunisie, par exemple, on arrive à produire à peu près 17 films par an, ce qui est excellent par rapport à un pays comme la Tunisie. C'est le cas aussi pour le cinéma marocain. On sait que le CNC marocain, le centre de production cinématographique au Maroc, ça fait une trentaine d'années qu'il pousse ce cinéma à avancer, et on sait que tous les ans, on a dans les festivals internationaux entre 1 et 3 films qui peuvent être présents et qui gagnent de prix également, et qui vraiment font le beau jour du cinéma marocain également.
Est-ce qu'il peut y avoir aussi un manque de moyens ? On avait Sam Ezouabi, le réalisateur de Tel Aviv on Fire, qui nous expliquait un peu que ça manque de modèle économique. En fait, comme il n'y a pas assez de cinéma, pas assez de salles de cinéma en fait, dans beaucoup de pays, il n'y a pas de financement de fait, puisque les films sont moins vus, donc les billets de cinéma sont moins achetés. Et donc il y a forcément une obligation de passer par soit du financement public, soit du financement étranger. Est-ce que ça peut être aussi une des explications de parfois un manque de cinéma, même si aujourd'hui il y a de plus en plus de films?
Non, au contraire, la coproduction étrangère aide beaucoup le cinéma du tiers-monde, on le sait très bien, côté financier surtout. Mais en fait, le métier de producteur n'existe pas réellement dans le monde arabe. Au Liban, un pays comme le Liban, vous savez que Nadine Labaki, qui a été jusqu'à la shortlist, jusqu'à la courte liste de l'Oscar, et sa production, c'est une production familiale, c'est fait vraiment avec l'argent de la famille et avec l'aide d'une productrice, sa productrice belge, qui est avec elle, qui l'accompagne depuis le début. Mais un film qui a gagné à Cannes et qui est allé jusqu'à l'Oscar, c'est vraiment produit par Nadine et par son mari et par sa productrice belge. Il n'y a aucun aide qui vient de l'État au Liban. Au cinéma, c'est vraiment minime. Le budget du ministère de la Culture est très, très, très faible. Et le budget consacré au cinéma, c'est presque inexistant. Donc, c'est vraiment des politiques d'État et c'est vraiment lié à la politique d'un pays et c'est lié aussi à ce manque d'intérêt des hommes qui possèdent l'argent, qui possèdent les capitaux pour l'art et pour le cinéma dans les pays arabes. Mais il y a toujours des exceptions et tout ce qui sort, c'est en fin de compte du cinéma indépendant, qui sont aidés, par exemple, en Tunisie, un peu par le CNC tunisien et au Maroc par le CNC marocain.
Alors, vous parliez de Nadine Labaki, qui, ça tombe bien, elle a reçu le prix du meilleur réalisateur, donc le annual Critic Award de la meilleure réalisatrice pour Capharnaüm. Vous parliez aussi du cinéma marocain, avec un film qui reçoit deux prix, le film Sophia de Meryem Ben Mbarek, qui obtient le prix du meilleur scénario et le prix de la meilleure actrice pour Maha Halemi. C'est un film que vous avez aimé, vous, Sophia ?
C'est un film que j'ai aimé. J'ai voté aussi pour que ce film ait le meilleur scénario. C'est un film qui tient la route, qui raconte des choses de la société marocaine aujourd'hui. Et je peux étendre la discussion pour parler aussi de cette présence intéressante de femmes des Maghrebs en tant que réalisatrices aujourd'hui. À Cannes, il y a à peu près 5 films des femmes maghrébines ou d'origine maghrébine qui sont présents et qui racontent chacun une histoire assez importante avec des matériels, des outils et un langage cinématographique assez intéressant et qui avec une nouvelle génération qui raconte plus d'histoires encore sur la liberté, sur les conditions de la femme, sur ces sociétés-là. Et c'est vraiment, j'ai l'impression qu'on est en train d'assister à une ouverture, à une avancée par rapport à ce cinéma nouveau qui dégage des nouveaux noms, qui fait naître de nouveaux cinéastes qui osent et qui racontent encore plus d'histoires avec une performance nouveau. Parce que parfois, par exemple, si on parle du cinéma égyptien, ce cinéma a longtemps souffert des conditions techniques. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle génération, eh bien, les conditions techniques sont tous là. Et n'importe quel film qui vient aujourd'hui de la Tunisie ou du Maroc ou du Liban ou de l'Algérie, parce que l'Algérie est très présente à Cannes cette année aussi, ben, il a les mêmes conditions qu'un film qui vient du Canada, et je parle techniquement, et aussi dans la technique de raconter et dans la technique de comment on raconte une histoire à travers l'image qui est proche du standard et qui est dans le standard international de la production cinématographique aujourd'hui, malgré le manque de moyens. Et c'est ça vraiment qui est important. Et c'est ça qui fait que ce prix du cinéma arabe ou ces prix de cinéma arabe sont importants, parce que c'est pour dire aussi que ce cinéma existe et a toute sa place aujourd'hui dans la production cinématographique mondiale.
Peut-être encore plus cette année que l'année précédente. Il y a beaucoup de films qui viennent du Maghreb en particulier,
oui,
dans la sélection cannoise 2019. Oui,
dans toutes les compétitions.
En plus, oui, c'est pas que à Cannes officiellement, c'est aussi dans les différentes sélections du Festival de Cannes cette année.
Bah, tout à fait, parce que ces pays continuent à bouger politiquement, socialement et dans tous les sens. Et effectivement, ce mouvement-là donne au cinéma, dope le cinéma aujourd'hui. on a vu que le film qui a eu le meilleur prix d'un documentaire à Berlin cette année, en février dernier, c'était un film soudanais, un documentaire soudanais, un premier film du réalisateur, au même temps qu'il y a eu ce mouvement politique et social au Soudan qui réclame plus de liberté et plus encore de liberté politique et sociale et plus de dignité pour l'être humain qui est l'être soudanais. Et c'est exactement ce qui se passe également en Algérie en ce moment. Donc c'est un cinéma qui bouge et qui accompagne ce mouvement dans la société et dans les transformations de ces sociétés-là qui ont longtemps souffert de dictatures.
Alors, Ounaï Ibrahim, vous êtes à Cannes, là, on vous a au téléphone, vous êtes sur une terrasse de Cannes. Est-ce que vous les avez vus, ces films ? Est-ce que vous avez des coups de cœur, peut-être, parmi ces films de la sélection qui viennent du Maghreb ?
Eh bien, j'attends encore le film, si on parle du cinéma arabe, j'attends le film de Elia Sulaiman, qui sera projeté demain. J'ai vu 4 films maghrébins et j'aime beaucoup tout ce que j'ai vu. J'ai pas vraiment un coup de cœur parce que chaque film que j'ai vu parmi ces films avait ses spécificités et j'ai vraiment aimé la façon de raconter parce qu'on vient avec un premier film et on est déjà mûr pour être à Cannes et pour être dans une compétition comme Un certain regard ou La semaine de la critique ou aussi La quinzaine des réalisateurs.
On va donner le reste du palmarès. On a parlé de Sofia et de Capharnaüm.
De Nadine Labaki, ouais.
Voilà, on va donner tout le palmarès donc de ces Annual Critic Awards avec le prix du meilleur acteur pour Mohamed Drif dans le film Weldy, le prix du meilleur documentaire pour Des pères et des fils de Tal Alderki, un film syrien, Yomedine qui obtient le prix du meilleur film, le film de Aboubakar Choki en Égypte. Est-ce qu'il y a d'autres films qui vous ont marqué qui ne figurent pas dans ce palmarès?
Non, vraiment, les meilleurs films sont dans notre palmarès.
Ah, c'est bien, films. Ça fait consensus alors.
Il y a d'autres, oui, tout à fait, je pense que c'est le cas, oui.
Merci beaucoup, Ounaï Ibrahim.
Merci.
Et voilà pour cette interview de Ounaï Ibrahim, qui était jury donc au Annual Critic Award Interview, enregistré jeudi en début de soirée. Ben voilà Camille, c'est terminé pour aujourd'hui.
Oui, c'est terminé, on va aller retrouver nos mamans.
Exactement, et on ne va pas oublier d'aller voter aussi. C'est,
ah oui,
c'est les
aussi.
Élections européennes, il faut y aller. Enfin voilà, on a un droit de voter, donc pour moi c'est un devoir de voter. Et j'aime bien le rappeler à chaque fois qu'il y a des élections.
C'est oui, pour c'est ça vrai que tu le rappelles à chaque fois qu'il y a des
dimanche.
Élections. Ah, tout ça c'était calculé.
Exactement, tout est calculé. Bon, on vous laisse ici, si vous avez raté le début de l'émission, vous pouvez la retrouver en podcast sur beurrefm.net et sur les applications beurrefm. N'oubliez pas de nous suivre aussi sur la page Facebook de Studio B. La suite du programme, c'est le week-end magazine qui continue avec le book club de Philippe Robichon. À 13h20, la chronique du Ramadan, Le Prophète. 15h20, votre chronique Ramadan et Solidarité. Et puis vos programmes du Ramadan, comme tous les soirs. Le dimanche soir à 19h, c'est le Tour du Monde d'Emmanuel Mariani. Et à 20h, vous retrouverez Philippe et Abdelali Mamoun pour Allo l'Imam jusqu'à la rupture du jeûne, la Danne à Paris aujourd'hui à 21h42. Très bonne soirée. Bon après-midi déjà, et puis très bonne soirée ensuite sur Beurre FM. La semaine prochaine, nous recevrons Mohamed Benatia pour parler du film Mon cher enfant qui sort en DVD. Voilà, bon week-end à tous, à dimanche prochain, 11h midi. Et d'ici là, n'oubliez pas, le cinéma, c'est mieux au cinéma. Ciao!
Ciao!
Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.